RFI, 13h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Et un journal avec vous, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Grégoire et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une d'Afrique Midi, après l'occupation de la ville par le M23 et l'armée rwandaise, on fait le point sur la situation humanitaire à Bukavu dans l'est de la RDC. Dès le début de ce journal, on est en ligne avec Pauline Azidi à Kinshasa pour évoquer les concertations entamées par les églises catholiques et protestantes.
Le conflit dans l'est de la RDC abordé ce week-end au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Pas de condamnation explicite du Rwanda ni de sanctions. On en parlera avec notre invité après journal, Paul Simon Andy de l'Institut d'études de sécurité.
Au sommaire également, on est au Togo pour évoquer la victoire du parti présidentiel aux élections sénatoriales. Au Mali, où l'association de consommateurs s'exprime après le projet de nouvelles taxes. Et puis au Gabon, où les proches d'Ali Bongo réclament une clarification de la situation de l'ex-président 18 mois après le coup d'État. Retour progressif à la normale à Bukavu. Les habitants recommencent à sortir timidement dans les rues après l'occupation de la ville par le M23 et l'armée rwandaise. Avancée condamnée par plusieurs chancelleries occidentales, elle demande à Kigali le retrait de ses soldats du sol congolais et l'application d'un cessez-le-feu. Pendant ce temps, les responsables religieux, catholiques et protestants poursuivent leur mission de consultation, mission qu'ils ont baptisée Pacte social pour la paix. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
À Kinshasa pour RFI. Après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC M23 à Goma, le président Kagame à Kigali, ils sont désormais en Europe.
Oui, les responsables de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo étaient ce week-end à Bruxelles pour rencontrer plusieurs composantes de l'opposition politique congolaise. Ce dimanche, c'est avec Moïse Katumbi et ses proches qu'ils ont échangé. Comme à chaque fois, les religions ont présenté leur mission, détaillant leur pacte social, mais ils ont surtout écouté. Ils recueillent les points de vue des politiques et des acteurs de la région pour remettre un rapport au président, a expliqué un participant aux échanges. Du côté de Moïse Katumbi, on a assuré soutenir cette démarche. Il n'y a pas d'autre voie possible, estime-t-on, dans le camp de l'opposant. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table pour se parler, a déclaré Salomon Kalanga, sénateur du parti Ensemble pour la République. Samedi, les religieux se sont entretenus avec l'ancien député Claudel Loubaya, mais aussi Jean-Claude Mwemba ou encore Franck Diongo, qui a obtenu le statut de réfugié politique en Belgique, et surtout avec le camp de Joseph Kabila, le FCC. C'est représenté par Raymond Tshibanda, Néhémie Wilamia et Joseph Makila. Enfin, la CENCO-SCC s'est aussi entretenue avec le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa pour RFI. Il y a donc ces discussions des responsables religieux. Il y a aussi l'inquiétude sur la situation humanitaire au nord et au sud Kivu. À Bukavu et à Goma, des magasins, des boutiques et même des stocks de certaines ONG ont été pillés. Un nouveau défi pour les organisations humanitaire, comme l'explique François Moreillon. Il est chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Kinshasa.
Très malheureusement, un certain nombre d'acteurs humanitaires ont été affectés, notamment dans des stocks de nourriture, ce qui va évidemment représenter un enjeu important dans les semaines et mois à venir, puisque ces stocks étaient absolument nécessaires à la prise en charge des populations déplacées ou retournées d'ailleurs. Donc ça va être un enjeu important parce que il est difficile de repourvoir ce type de capacité. Là, il va falloir travailler avec les pays voisins pour voir acheminer. Nous, par exemple, nous avons pu redoter nos stocks à Goma qui avaient été pillés en médicaments et nous avons tout envoyé depuis Nairobi par camion. Donc là, il va falloir que les acteurs s'organisent afin d'être en capacité de répondre de manière adéquate aux besoins. Mais encore une fois, ceci ne sera possible que si la situation se stabilise et elle reste encore trop volatile à l'heure où je vous parle.
Le chef de délégation du CICR à Kinshasa, joint par Amélie Tullet. La situation dans l'est de la RDC qui a suscité le malaise ce week-end au sein de l'Union africaine. Les chefs d'État étaient réunis à Addis Abeba. À l'issue du sommet, ni sanctions, ni condamnation explicite du Rwanda. Comme le réclamait pourtant Kinshasa, il n'y a pas eu non plus de plan de sortie de crise. Récit sur place de Florence Maurice.
Un seul pays, le Burundi, a plaidé à huis clos ce dimanche pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet ou choisi de l'évoquer en des termes très flous. Le Kenyan Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « je ne veux pas en parler ». Il faut dire que la réunion du Conseil Paix et Sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda pour son agression, je cite. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée et que 48 heures plus tard, le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'après-midi, le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye, a tout de même donné une conférence de presse pour appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées. Il n'a pas mentionné le Rwanda. Côté congolais, on se félicite que Kigali n'ait pas obtenu le siège que le pays briguait au sein de ce conseil paix et sécurité. Un vote sanction, selon certains analystes, même si d'autres facteurs ont pu jouer et que l'influence de Paul Kagame au sein de l'UA reste très importante.
Florence Maurice, ce sommet de l'Union africaine et le conflit dans l'Est de la RDC. On y revient en longueur avec notre invité juste après ce journal, Paul Simon Andy, directeur du bureau Afrique de l'Est et Union africaine de l'Institut d'études de sécurité. Midi 36 en temps universel, 34 sièges sur 41 au Togo. Le parti présidentiel emporte haut la main les élections sénatoriales. C'était ce week-end, scrutin indirect et dernière étape avant l'application de la nouvelle constitution. Ce vote a été boycotté par une partie de l'opposition. Elle dénonce un maintien au pouvoir déguisé du président. Correspondance à Lomé de Peter Sassou Dogbe.
Les résultats provisoires ont été annoncés par Yabré Dago, président de la Commission électorale nationale indépendante.
Sur les 41 sièges enlevés, UNIR remporte 34 sénateurs. ADI a un sénateur. L'UFC a un siège. Bâtir a deux sièges. CLE a un siège. Le Togo autrement a un siège. Les deux bisons a un siège.
Dissident de l'Alliance nationale pour le changement, exclu du parti peu avant l'élection sénatoriale pour avoir contesté la décision du parti de ne pas prendre part au scrutin, Robert Olimpio, candidat indépendant sur la liste Les Deux Bisons, prend un siège.
Je suis très heureux. Honnêtement, je veux appartenir au peuple comme tous les autres. Il faut que tout le monde participe à la chose publique. Pour ceux qui ne veulent pas, c'est tant pis. Mais moi, j'avance.
Il revient au président de la République de nommer le tiers restant, c'est-à-dire 20 sénateurs, pour que l'institution soit au complet. Le Sénat devra siéger après la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Peter Sassou Dogbe, Lomé, RFI.
En bref, une position de l'armée béninoise a été attaquée ce samedi dans le parc du W. C'est à 750 km au nord de Cotonou, dans la zone de Karimama. Des sources béninoises haut placées évoquent la mort de 6 militaires et la neutralisation d'une quinzaine de terroristes. Attaque revendiquée par le JNIM qui parle, lui, d'un bilan de 8 soldats tués. Le JNIM qui revendique aussi l'enlèvement, il y a un mois, d'Alassane Souleymane dans le parc du W. Eva Massi, on a reçu un signe de vie de ce haut fonctionnaire nigérien dans une vidéo publiée ce week-end sur les réseaux sociaux.
Il apparaît le regard hésitant, lisant un message qu'il tient entre ses mains, tout en levant le regard vers la caméra. Alassane Souleymane se racle la gorge, dit qu'il se porte très bien, puis demande aux autorités nigériennes d'intervenir pour sa libération, afin, dit-il, de rejoindre rapidement sa famille. Ancien directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger, il a été kidnappé le 11 janvier. Il se trouvait dans son jardin, dans la périphérie du parc national du W, à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Sur les images, il indique lui-même qu'il a été enlevé par le JNIM, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda et opérant dans la région des trois frontières. Aucune exigence précise ni demande de rançon n'a été formulée. La vidéo de 40 secondes, enregistrée le 12 février, n'est visible sur les réseaux sociaux que depuis ce samedi 15 février. Le même jour à Niamey, les militaires au pouvoir dirigeaient la cérémonie d'ouverture des assises nationales. À ce stade, les autorités n'ont pas réagi à la prise d'otage d'Alassane Souleymane.
Eva Massi, 8 ans après, les victimes et leurs familles attendent toujours des réparations. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé vendredi la condamnation à perpétuité de 4 accusés dans le procès de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam, attaque qui avait fait, souvenez-vous, 19 morts et 33 blessés en mars 2016. Les juges avaient fixé un montant de réparation pour les victimes, mais toujours aucun signe de cet argent. À Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
Ce 13 mars 2016, Juliette a failli perdre son fils, blessé par balle. Aujourd'hui encore, elle conserve les images de cette tragédie. Satisfaite du verdict, elle plaide désormais pour obtenir réparation.
Il nous a été dit que les familles des victimes et les blessés seront indemnisées. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas où en est le dossier. Avance-t-il ou pas? Nous n'avons aucune information. Et surtout, nous n'avons rien reçu.
Autre témoignage, celui d'une employée d'un des hôtels ciblés par l'attaque, qui a coûté la vie à 19 personnes. Aujourd'hui, elle est sans emploi et attend toujours plusieurs mois de salaire impayé.
Et nous sommes licenciés depuis, on va dire, 7-6 mois avec des arriérés de salaire près de 21 mois. Voyez-vous que ça aussi, c'est un dommage. C'est notre combat d'être indemnisé puisque on entend aussi dans des pays ailleurs, des pays développés, que ça se passe. Pourquoi pas nous ?
En première instance, la Cour avait décidé que chaque victime devrait recevoir entre 10 et 30 millions de francs CFA en réparation. Mais ces fonds ne sont toujours pas disponibles. L'avocat des parties civiles, Maître Amadou Camara, appelle l'État à agir sans attendre un nouveau procès en cassation. Pour lui, l'État devrait se porter garant et trouver les fonds nécessaires pour indemniser ses victimes. Abdulaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Au Mali, l'annonce de nouvelles taxes, notamment sur les services téléphoniques, continue de faire réagir. Ce projet d'ordonnance a été dévoilé en Conseil des ministres il y a près de 2 semaines. Bonjour David Bachet.
Bonjour.
L'association des consommateurs du Mali a été consultée par les autorités de transition. Elle reconnaît que l'État doit trouver des fonds, mais demande des contreparties.
Oui, 10% de taxes sur les recharges téléphoniques. Concrètement, sur une carte de 1000 francs CFA, cela fait 100 francs de crédit en moins. 1% sur les transferts d'argent par mobile monnaie. L'effort n'est pas anodin sur des services utilisés au quotidien par tous les Maliens. Abdoul Wahab Diakité, président de l'Association des consommateurs du Mali, ne trouve pas anormal que la population soit mise à contribution, à condition que les autorités le soient aussi.
Nous allons en contrepartie demander aux autorités de leur terme de vue. Nous pensons à la réduction des budgets de toutes les institutions, à un prélèvement sur les salaires des ministres, des fonctionnaires.
Des membres du CNT, le Conseil national de transition également ?
Tout le monde, sans exception.
Depuis plus d'un an, les coupures d'électricité que subissent les Maliens ont atteint un niveau sans précédent. Le gouvernement de transition assure que ces nouvelles taxes serviront à des projets d'infrastructure, notamment dans l'énergie. Le président de l'Association des consommateurs du Mali demande de la transparence dans la gestion des fonds.
Faire l'état de la mobilisation de ces fonds-là trimestriellement, et leur utilisation également, que tout le monde puisse savoir le résultat de leur contribution, l'impact de leur contribution.
Lors d'un point presse, le Premier ministre de Transition, le général Abdoulaye Maïga, l'a assuré, il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens.
David Bachet, en direct dans Afrique Midi. Des frappes de drones américains et émiriens hier au Puntland. Depuis plusieurs semaines, cette région semi-autonome de la Somalie a lancé une vaste opération antiterroriste. Sa cible, l'État islamique, installé dans les montagnes Al-Miskad, dans le nord-est du Puntland. Gaël Lalex.
Ce sont les Américains qui ont bombardé les premiers. 2 frappes de drones dans la matinée dans la région de Bari, selon la brigade antiterroriste du Puntland. Quelques heures plus tard, c'est dans la zone de Dar Armadoubé que les drones émiratis ont frappé, tuant 12 terroristes. Dans un communiqué, Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, affirme avoir neutralisé 2 combattants de l'État islamique. Cela fait plus d'un mois maintenant que le Puntland mène une opération antiterroriste d'envergure contre le groupe État islamique. Les autorités estiment avoir tué plus de 100 combattants la semaine passée. Un bilan difficile à vérifier, mais le groupe est incontestablement affaibli, concède Omar Mahmoud, chercheur chez International Crisis Group. Le I au Puntland inquiète de plus en plus la communauté internationale. Selon un rapport de l'équipe de surveillance des sanctions des Nations Unies publié la semaine passée, le calife de l'organisation serait aujourd'hui Abdul Kadir El-Moumine, chef de la branche somalienne. Élevé au rang de directeur général des provinces de l'État islamique par le passé, il a assumait déjà le contrôle des filiales africaines du groupe. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Il réclame une clarification sur sa situation et s'inquiète pour son état de santé. Au Gabon, les proches d'Ali Bongo demandent une amélioration de son sort. Renversé le 30 août 2023, il a refusé de quitter le pays. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite, contrairement à son épouse et son fils qui, eux, sont en prison. Ali Bongo est donc en résidence surveillée. Son oncle maternel, Jean Boniface Asselé, longtemps ministre et chef de la police d'Omar Bongo, estime que les autorités de transition doivent faire évoluer cette situation.
Vous savez, l'histoire d'Ali en ce moment, je suis triste, c'est vrai, mais je suis quand même son oncle. Chez nous, c'est important. Il est gardé. J'y vais de temps en temps le voir. J'aurai le temps peut-être de demander aux responsables politiques de son pays, de leur dire, si jamais Ali a fauté, ben, faut le punir. Ben, si vous pensez qu'il n'a pas fauté, ben, surtout que lui-même, il a désisté qu'il ne fera plus la politique. Il est arrivé, il est au pouvoir. Bon, il a failli à sa tâche par moment, d'accord. Bon, on a fait un coup honorable, bien sûr. Mais lui, il est sorti de là. Nous sommes quand même aussi les parents, nous avons aussi essayé de venir aux côtés de notre enfant, tout le monde, pour leur dire, enfin écoutez, nous allons le prendre, on va discuter avec.
L'oncle d'Ali Bongo, Jean Boniface Asselé. Du sport avant de refermer ce journal, de la lutte en RDC. Plus aucune compétition n'a eu lieu dans le pays depuis les derniers Jeux de la Francophonie. C'était il y a plus d'un an, en juillet 2023. La Direction Technique Nationale Congolaise a donc organisé une compétition pour classer les meilleurs lutteurs du pays. Reportage sur place d'Olga Massangou.
C'est dans un gymnase du stade Tata Raphaël, qui ne s'ouvre presque plus depuis les derniers Jeux de la Francophonie, que les amoureux de la lutte se sont retrouvés pour se régaler et retrouver la sensation des championnats nationaux. Des combats dans plusieurs catégories pour permettre à Bertrand Bassampi, directeur technique national, de situer le niveau de chacun des athlètes, lui qui doit constituer les sélections nationales en prévision des championnats africains.
Chaque athlète qui doit intégrer au sein de l'équipe nationale soit vraiment un meilleur, un vrai champion. Alors il faut passer aussi par une compétition qui doit nous aider.
Une tâche difficile pour la direction technique quand le dernier championnat national remonte à 6 ans. Bamona Percy, 86 kilos, est l'un des champions de la soirée.
Il faut 4 victoires.
Je viens de gagner mon premier combat 8-2. Il me faut 4 victoires sans défaite pour que je sois champion.
Entre une implantation totale de la discipline dans les provinces, son organisation et la participation des équipes nationales au championnat africain de la spécialité, c'est un vrai défi qui attend le nouveau comité de la FECOLUTA. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où il est à 13h47, midi 47, en temps universel. Voilà pour le journal et on fait le point sur les principaux titres de l'actualité internationale avec vous, Grégoire Morelli.
Une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN réunis à Paris aujourd'hui avec l'objectif de définir une réponse commune pour la sécurité et du vieux continent et surtout faire face à l'accélération de l'administration américaine sur le dossier ukrainien. La réunion de Paris, elle intervient à la veille de pourparlers prévus demain donc en Arabie Saoudite entre hauts responsables russes et américains. Ils visent un rétablissement des relations entre Moscou et Washington. Ces pourparlers concerneront aussi de possibles négociations sur l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il se rendrait mercredi en Arabie Saoudite. L'Ukraine n'a pas été informée officiellement de ces pourparlers. Le président Zelensky dit que son pays, en tout cas, ne reconnaîtra aucun accord conclu sans elle. Le secrétaire d'État américain, lui, il est déjà à Riyad. La veille, il avait rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Marco Rubio a déclaré que le Hamas devait être éradiqué, jetant le doute sur l'accord de trêve, toujours en cours, entre Israël et le Hamas. L'envoyé de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré que les négociations pour la deuxième phase de ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se poursuivraient cette semaine. On en parlait il y a quelques minutes. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo était au cœur du sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba. Alors que le M23, appuyé par l'armée rwandaise, a fait son entrée dans Bukavu, les chefs d'État de l'UA n'ont pas condamné explicitement le Rwanda. Pas de sanctions non plus à l'issue de ce sommet. Et tout ça, vous nous en parlez avec votre invité ce midi, Arthur.
Bonjour Paul Simon Andy.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Bureau Afrique de l'Est et Union africaine de l'Institut d'études de sécurité. Tout ce week-end, on a senti qu'il y avait un malaise au sein de l'Union africaine en rapport avec ce conflit dans l'Est de la RDC. Il n'y a pas de condamnation directe du Rwanda. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Alors, on peut l'expliquer par deux facteurs. Le premier est la diversité des opinions, hein, la diversité des acteurs. On est quand même en face de 54 pays. Et le deuxième est le mode de décision et de gestion des conflits en Afrique, surtout lorsqu'il s'agit des conflits inter-États, des conflits qui opposent deux ou plusieurs États. Alors, en ce qui concerne la diversité, lorsqu'on parle de position de l'Union africaine, il faudrait voir que ces positions s'expriment à trois niveaux. Le niveau national, le niveau régional et le niveau continental, l'Union africaine, ou au sein du Conseil de paix et de sécurité, qui est le plus grand niveau de décision en termes de paix et de sécurité. Il faut dire qu'en général, le Conseil de paix et de sécurité a un vrai malaise lorsqu'il s'agit, par exemple, de voter sur ces questions. Ils ne votent pas, ils préfèrent construire un consensus qui souvent s'avère être mou.
Justement,
c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui.
Sur cette question, la première ministre congolaise s'est exprimée au sommet de l'UA. Elle a dit, et je la cite, « Nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé les principes fondamentaux de l'acte constitutif de l'Union africaine en menant une agression armée contre un autre État. » Est-ce qu'elle a raison quand elle dit cela? Est-ce qu'il y a eu violation de l'acte constitutif de l'Union africaine?
Alors, moi, je pense que c'est très clair. Il y a une vraie violation de la charte de l'Union africaine. Il y a en effet violation de l'intégrité territoriale du Congo. Mais une fois qu'on l'a dit, il faudrait considérer aussi les griefs de l'autre partie, notamment du Rwanda. Il se passe que le Rwanda se plaint d'une violation d'un principe fondamental de la charte de l'Union africaine, qui est le respect de la dignité, le respect de l'humanité de certaines populations du Congo. Ces deux versions qui souvent sont des récits que les deux pays mettent en avant sont justement au cœur même de la division des pays africains. Et c'est ce qui rend une décision ou une prise de position claire, notamment une condamnation du Rwanda, extrêmement compliqué, compte tenu du mode de gestion qu'on peut critiquer, particulièrement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Est-ce que vous diriez que le Rwanda fait peur à une partie des chefs de l'Union africaine?
Non, je ne pense pas que le Rwanda fasse peur. Je pense que le Rwanda a tout simplement fait un travail diplomatique énorme. Je pense que le Rwanda a su construire au fil des années des amitiés, des alliances, des connexions qui gênent certains pays, notamment à prendre une position tranchée là-dessus. Je pense pas qu'il s'agisse de peur, il s'agit peut-être de stratégie. Et là, le Rwanda s'est peut-être avéré efficace. Le même travail devrait peut-être être fait aussi par RDC, qui a des atouts, qui siège au Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba, qui a fait un travail diplomatique énorme en dehors de l'Afrique, de ce côté. On a vu au Conseil de sécurité, on a vu à l'Union européenne le travail remarquable fait par la diplomatie congolaise. Il faudrait peut-être étendre ce travail au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques régionales.
Justement, on citait tout à l'heure la première ministre congolaise au sommet de l'UA. Elle a aussi dit, et je la cite à nouveau, « L'Union africaine ne peut cautionner l'impunité. Laisser cette agression sans réponse, c'est créer un précédent dangereux pour chaque État représenté ici. » Visiblement, les pays de l'Union africaine n'ont pas été sensibles à cet argument.
Peut-être qu'ils l'ont pas vraiment écouté et peut-être qu'ils ne l'écouteront que lorsqu'ils seront eux-mêmes concernés. Mais je pense que les propos de la première ministre sont justes. C'est la position du Congo et elle est forte en fait. C'est une position très forte. On peut se demander si l'Union africaine voudrait cautionner le fait que pour résoudre un problème, on puisse avoir recours à une telle démonstration de force militaire. Ça symbolise une crise du multilatéralisme africain et notamment une crise aussi de mode de gestion de l'Union africaine. Il faut espérer que le nouveau leadership de l'Union, de la Commission, puisse mobiliser le Conseil de paix et de sécurité, qui a aussi de nouveaux membres nouvellement élus, et que cette question trouve une résolution rapide qui puisse éviter le précédent auquel la première ministre fait allusion.
Une dernière question avant de vous quitter, Paul Simon Andy. On le disait, il y a donc cette absence de condamnation directe du Rwanda par l'Union africaine. Au niveau international, on sent aussi que les condamnations du Rwanda sont très timides. Qu'est-ce qui reste pour soutenir la RDC?
Oh, il faut continuer à travailler dessus. L'Afrique est divisée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est divisé. Finalement, c'est la communauté internationale dans son ensemble qui est divisée, même si la plus grande responsabilité revient aux pays africains. Il faut faire pression sur les deux acteurs, même si, à mon avis, on est déjà en pleine crise régionale. Il est clair que sans une vraie pression sur les deux acteurs, on n'aura pas de résultats probant et la conflictualité, notamment la violence et la crise humanitaire qui s'en est suivie, vont continuer.
Et on continuera évidemment à suivre tout cela sur l'antenne de RFI. Merci Paul Simon Andy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Afrique de l'Est et Union africaine de l'Institut d'études de sécurité. Entretien à réécouter, vous le savez, sur notre site www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Midi 55 en temps universel. Toute la semaine, RFI est au nord du Bénin. Le 8 janvier dernier, 30 soldats ont été tués dans une attaque de la zone dite du point triple aux frontières du Niger, du Bénin et du Burkina. Attaque revendiquée par le GNIM. Dans le nord du Bénin, la situation sécuritaire est dans toutes les têtes. Alors sur place, comment s'adapte-t-on à cette nouvelle réalité? RFI reportage, Magali Lagrange.
Les commerces sont ouverts à Banikoara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité, ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant, ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin, le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, bon, vous avez transporté les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune, parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Hein.
À côté de lui, des émis de gens, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité, là. Comme Djumbaru, Kabaru. Au niveau des Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu parles là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
Brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du jour, il n'y a pas trop de promenades. Donc il y a un confinement, on dirait. Bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 01h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend, donc, on ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banikoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banikoara, RFI.
Cette série de 4 reportages de Magali Lagrange dans le nord du Bénin à écouter jusqu'à jeudi, à retrouver aussi sur RFI.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Midi, préparée et réalisée aujourd'hui par Benoît Raymond, Pierre Vallée et Laurent Chaffard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir écoutés.
Et la suite sur RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques, sauf si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest, où vous attend une demi-heure d'information en full day, et en Afrique lusophone, ce sera 30 minutes d'information en portugais. Très bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet « Actu » de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Quand l'écriture guérit, thérapie par la création littéraire encadrée par des soignants, comment fonctionne cette écriture refuge, écriture qui soulage?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Demain,
à Madagascar, l'homosexualité est autorisée pour les personnes de plus de 21 ans. Pourtant, elle est encore largement condamnée par la société. Dans ce contexte, des associations luttent pour faire respecter la loi et promouvoir un traitement égalitaire des personnes trans ou homosexuelles.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur